France Inter.
Producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture, journaliste, essayiste, critique et sultan des bas-fonds de la fiction que nous plaçons très haut dans nos émissions respectives, François Angelier est un drôlatique charron qui transforme votre traversée du Styx en réjouissante croisière vers les ténèbres. Cet érudit passeur ne donne jamais dans l'angélisme que l'époque veut imposer à ses contemporains. Il sait que l'âme humaine est complexe, sombre et remplie d'autant de sublimes vitraux que de vermine et de courants d'air. Plonger dans le mauvais genre est une chose très nichéenne en fin de compte, car c'est la meilleure façon d'appréhender le réel et la question du mal sans pour autant se priver du récréatif. On parle de fiction, bien entendu. Rangez vos armes et toxiques et prenez le large par l'imaginaire. Ce soir, on va aussi parler de fin du monde sans que ça ne soit dénué d'espoir à travers l'exposition que notre invité a co-imaginée pour la BNF sous le titre Apocalypse hier et demain. Pourquoi demain? Parce que l'apocalypse a littéralement de l'avenir, comme vous allez le voir. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir François Angelier.
Bonsoir Eva Bester.
Nous étions confrères il y a de longues années.
Oui, absolument.
Sur France Culture.
Vous m'appeliez Monsieur Écharpe et moi je vous appelais Madame Montre-Mickey.
Oui, j'avais une Montre-Mickey, je le confesse. Et vous portiez des écharpes.
Oui, j'en porte toujours, mais je ne vois pas votre Montre-Mickey.
Et je ne vois
poignet.
Pas votre écharpe, peut-être, voilà. N'est-ce pas nous.
Nous aurons donc changé toutes ces années.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, c'est la lecture de la correspondance de Maurice Ravel. Ça, c'est une première chose. La lecture de Carne aussi, d'Esther Teilhard, m'a violemment enthousiasmé. Qu'est-ce qui m'a enthousiasmé? J'ai revu deux films de John Carpenter. J'ai revu les deux films autour, qui sont centrés autour d'une ville, New York 1997, et puis Escape Los Angeles, là, le film.
Invasion Los Angeles.
Voilà,
un merveilleux navet.
Un merveilleux navet, mais qui porte en lui beaucoup de questions et qui est quand même très... Non, il y a une très bonne idée, quoi. L'idée de scénario est excellente.
Le fameux slogan « Obey ». Mais je n'en dis pas plus pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu. François Angelier, vous êtes né à Angers, c'est-à-dire le lieu où se trouve la tapisserie de l'Apocalypse. Vous étiez prédestiné?
Oui, on peut prendre ça comme un signe. Je suis né dans une famille catholique, militante, au sein d'une ville qui porte avec elle l'idée de l'Apocalypse, puisque c'est là qu'est exposée depuis des décennies maintenant cette œuvre médiévale absolument hallucinante, parce qu'à l'époque, peu de gens savaient lire, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio. Il fallait montrer, il fallait marquer par des images, et bon, on faisait ce genre de technicolor gigantesque qui permettait aux chrétiens et aux croyants, aux bourgeois et aux nobles, puisque c'était quand même plutôt eux les destinataires de ce type d'œuvre, et bien de se représenter ce qui devait être la fin des temps, c'est-à-dire l'Apocalypse et surtout l'avènement de la Cité Nouvelle.
On voit aussi dans l'exposition des fragments de cette tapisserie ainsi que celle de Jean Lursa. Étiez-vous aussi prédestiné à être vendeur de cartes postales au Louvre, figurant de publicité contre les insectes et juge d'un jeu télévisé?
Ah, je vois que mon dossier a été scruté dans ses moindres détails.
Par l'inspecteur Bester.
J'étais prédestiné, je pense, à faire de la radio, puisque avec la radio, j'ai pu transformer, entre guillemets, en réussite, entre grosses guillemets, deux échecs à l'université et au théâtre. Mais c'était une époque, celle où j'ai fait tout ça, où j'étais à peu près soumis au courant de dérive en permanence. Donc tout était possible à cette époque. La vente de la Joconde le jour, l'après-midi, faire la publicité avec Édouard Molinaro, n'est-ce pas, qui tournait le spot. J'étais habillé en insecte. Ça n'a pas duré.
Et le juge de jeu télévisé?
Oui, alors ça, je l'ai été pendant un an. C'est un jeu qui est resté mythique, qui s'appelait Anagramme, puisque c'était un jeu qui, au départ, était un jeu familial, basé sur des questions-réponses, qui était les six premiers mois dirigé par Michel Constantin, vedette énorme, je salue sa mémoire. Et puis après, les six autres mois ont été dirigés, enfin animés, Michel a été animé par Daniel Prévost. Et là, on est passé d'un jeu familial, comme on l'entend, à une sorte de happening dadaïste, destroy, absolument phénoménal, où Daniel Prévost jetait des... Je me souviens, une fois, il a montré un code civil, et il s'est écrié « Rien, rien !» Rien ne m'interdit de jeter du museau vinaigrette dans la foule. Et il a sorti une petite barquette en plastique et il a jeté du museau vinaigrette dans la foule.
C'est très professeur Choron.
Oui, oui. Ah ben, on était dans cet esprit-là. Une autre fois, qui est resté célèbre puisque tout cela est visible sur Internet, il avait deux petits sachets transparents en plastique aux oreilles, pendus aux oreilles, avec dedans de l'eau et des poissons rouges. C'était une autre époque de la télévision. Ça a duré 6 mois, je vous rassure.
Mais 6 mois très intenses.
Ah, puissant, puissant.
François Angeli, à quoi ressemble votre âme ?
À une vieille, un vieux t-shirt usé et déteint, mais qui attend d'être lavé, nettoyé et repassé un jour. C'est ce qu'on appelle la fin des temps.
Ah oui, une métaphore de l'apocalypse.
Voilà.
On va y venir. Alors, une question, est-ce que vous vous confessez souvent, et je ne vous demande pas auprès de qui, ça peut être une puissance supérieure, un prêtre, un ami ou vous-même ?
Je me confesse auprès de moi-même, ce qui est toujours une lâcheté totale, puisqu'on a tendance à se donner l'absolution.
Non, mais c'est déjà pas mal,
mais ce que j'essaie de faire, c'est de me confesser à moi-même et de ne pas me donner l'absolution, de ne pas m'absoudre. Et ça, c'est le grand jeu, ça.
Et n'en souffrez-vous pas ?
Ah ben si, mais c'est ce qui est bien.
Un peu de masochisme ?
Non, un peu. J'ai un rapport à la souffrance qui est assez catholique, qui veut dire qu'elle est un indice de vérité. Donc c'est plutôt dans ce secteur qu'il faut chercher.
À force de fréquenter les ténèbres en fiction, trouvez-vous le réel plus avenant ?
Alors je trouve le réel prévisible et ennuyeux, mais d'un ennui sombre, tragique, bloqué, totalement sans intérêt. L'intérêt des ténèbres en fiction, c'est qu'on peut les percer comme on veut. D'ailleurs, on n'a pas trop envie de les percer. Mais on en est les concepteurs, on y trouve plus de réjouissance, peut-être.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Tantôt on parle de dieux contre le diable, des dieux primitifs contre les dieux archaïques, du bien contre le mal. On pouvait donc tout aussi bien parler de Nodens, le seigneur des abysses profonds, le seul nommé des grands ancêtres. Le dieu stupide Azathoth, ce fléau sans contour qui blasphème et bouillonne au centre de l'infini. Yog-Sothoth, l'unité dans le tout dans l'unité, qui ne reconnaît ni les lois du temps ni celles de l'espace. Il est de tous les temps et finit là où finit l'espace.
François Angeli, au moment de l'enregistrement de cette émission consacrée à Lovecraft en 1983.
Oui, absolument.
Vous êtes très très jeune, c'est votre première émission de radio.
Ouais.
Qui parle ?
Alors là, c'est un comédien de théâtre parmi les plus prestigieux. C'est Philippe Girard qui a été un grand acteur chez Antoine Vitesse, chez Stéphane Braunschweig, qui est toujours d'ailleurs chez Olivier Py. C'est lui qui a joué le Rodrigue du Soulier de Satin d'Olivier Py. Et donc, je le connais depuis 60 ans. Et je lui avais dit, viens, je démarre une émission de radio. Donc, viens lire le texte. En plus, on lisait Lovecraft tous les deux depuis qu'on était quasi enfants. Donc, c'est à la fois un souvenir de radio et un souvenir littéraire extrêmement émouvant. Donc il lisait avec beaucoup de sobriété. Dans mon souvenir, c'était moins sobre, parce que c'est une émission que j'avais conçue comme vraiment un désir d'apocalypse radiophonique.
Ah oui, ça s'entend.
J'avais écrit, mais la moindre seconde était écrite. Enfin, je m'étais pris pour un compositeur de musique électroacoustique. J'avais une espèce de délire. Et en définitive, c'était assez violent sur le plan du symbole et du son, mais peu compréhensible, au point même que ça a été diffusé par Michel Cazenave, dont je salue la mémoire, un 11 novembre à 22h. Ça allait avec la journée.
On va bientôt consacrer une émission de la 20e heure à Lovecraft pour son entrée dans la Pléiade, donc ce maître des nouvelles horrifiques. Pourquoi a-t-il autant de succès selon vous ? Pensez-vous qu'il soit un ami avec lequel on puisse partager son mal-être ?
Lovecraft communique une sorte d'angoisse cosmique, une espèce de terreur ontologique qui n'a plus rien à voir avec, je dirais, ce qu'on nous sert habituellement dans le monde du polar, même dans le monde du récit de suspense ou de terreur, qui est souvent psychologique, qui se résout à des solutions humaines. Avec Lovecraft, on est tout de suite projeté dans une sorte de panavision colossale, de terreur cosmique, et c'est ça qui, à mon avis, intéresse le lecteur. C'est d'être brusquement téléporté aux confins du cosmos, confronté aux terreurs mythiques, comme ça. On n'est pas chez Stephen King, par exemple. Lovecraft est un homme de l'avant, Stephen King. C'est une espèce d'hypertrophie de la terreur gothique.
Alors, vous avez fait une petite incartade mainstream à un moment dans Culture Matin et puis dans Agora avec Gilles Lapouge. Mais ouais. Ensuite, avec Emmanuel Laurentin et Jean-Christophe Augier, vous avez lancé sur France Culture Bande à part, qui est devenu ensuite Mauvais Genre.
Absolument.
D'où vous vient ce goût pour le mauvais genre ?
Alors ça vient de ma culture familiale. Mon père était un bibliophile, un curieux, un chineur, un farfouilleur. C'est un Lyonnais, donc un fou.
Pourquoi ?
Ah ben Lyon, c'est la ville de toutes les folies.
Ah oui.
La littérature féminine, l'imprimerie, la maçonnerie ésotérique, les partout sataniques.
Alors je suis d'accord sur tout, mais la littérature voilà. Féminine.
Non, mais je dis ça. On se comprend. Vous m'avez compris.
Moyennement.
Non, je veux dire, et mon père avait un goût puissant pour tout ça, la bande dessinée, le polar, la photo, le fantastique, ces choses-là. Donc j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans ce climat-là, dans cette atmosphère-là. J'avais à portée de main de livres qui étaient considérés dans d'autres familles, dans d'autres milieux, comme interdits ou suspects.
Lesquels ?
Henry Miller, le Marquis de Sade, oui. Lovecraft, oui. Little Nemo, Druillet. Tout ça, je l'avais à portée de la main.
Little Nemo, c'est le plus... Le moins
c'est vénimeux, le plus soft.
Bien sûr.
Et donc à partir de là, moi tout ça, c'était une sorte de patrimoine spontané comme ça que j'avais et qui m'excitait énormément et avec lequel je communiquais, je communiais. Et donc plus tard, quand il s'est agi, de passer à l'action, c'est bien naturellement que j'ai exprimé tout cela.
François Angelier, vous avez remarqué que le marginal devenait souvent populaire. C'était le cas de Fantomas, de Maigret ou encore de Jules Verne. Et si le mauvais genre devient trop populaire, puisqu'on est à une époque où le genre est vraiment un succès fou, où se trouvera la marginalité dans le futur ?
Là, vous venez de résumer tous les problèmes qui se posent aujourd'hui au magazine dont je m'occupe sur France Culture. C'est-à-dire à partir du moment où tout ce qui était toxique, marginal, transgressif, interdit, suspect, qui sentait le fagot et tout ce qu'on veut, devient d'abord une sorte de culture populaire entendue au sens le plus large, ensuite un produit marketing et après une culture qui rayonne et qui se diffuse sur toute forme de support, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Alors on va pas transgresser la loi, c'est toujours facile et toujours évident de transgresser la loi, d'aller au-delà, de franchir tous les rubicons possibles, ça finit par devenir un petit peu fastidieux. Donc je crois qu'il faut rester fidèle à ce qui est l'émotion, la sincérité et l'affect puissant. Si quelque chose est partagé par beaucoup et continue de vous émouvoir, il faut continuer d'en parler. Et on peut d'ailleurs se rendre compte que cette espèce de partage et de popularisation est assez fragile, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la culture de genre, dans ce qu'elle a de plus rude, soit reçue et partagée. Donc il faut rester, je crois, il faut tenir la position, comme on dit chez les militaires, et continuer d'habiter ce que j'appelle volontiers la petite maison sur la colline. Vous savez, à côté, dans toutes les villes, à côté, il y a des banlieues dans lesquelles il y a une maison où vont les enfants à vélo, les amoureux, les clochards, les pervers, les rêveurs, une espèce de ruine où on va comme ça pour se livrer à des activités non lucratives et parfaitement délectables, eh bien il faut continuer d'habiter la petite maison sur la colline.
Vous dites que le mauvais genre est une sorte d'extase négative.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai une conception haute du mauvais genre. Je veux dire par là que je l'ai éprouvé étant enfant. Je vais vous raconter un souvenir. J'étais en vacances en Suisse avec mes parents. On traversait le lac de Genève sur une espèce de petit bateau. Il y avait toutes les familles étaient là. Bon, les membres de ma famille discutaient entre eux. Moi, je me suis éloigné. Et puis, j'ai vu un moment sous une bande dessinée. Donc je me suis penché, j'ai ramassé la bande dessinée. Et qu'est-ce que c'était ? C'était un fumetti italien, c'est-à-dire une bande dessinée ah oui. érotique, violente pour adultes. Alors j'ai regardé, et la première chose que je vois, c'est un monsieur qui était en train de tracer avec un couteau une croix sur les fesses d'une dame. J'étais à l'époque peu habitué, bon lecteur de
Tintin. Alors que maintenant
Tintin,
vous êtes vraiment...
Aujourd'hui c'est mon pain quotidien,
bien sûr.
Mais à l'époque j'ai vu ça, ça m'a saisi. Et je crois que ce jour-là, je suis entré en mauvais genre. Je suis évidemment immédiatement allé porter ça à ma famille, qui s'est dépêché de mettre ça par-dessus bord. Et je pense que ça flotte toujours dans les eaux du lac de Genève. Qui sait ?
Certains poissons se sont encanaillés à cause de vous.
Apocalypse de Jean, chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean.
Extrait de l'Apocalypse selon saint Jean, lu par Alain Moreau pour le site Bible Audio, que j'ai découvert grâce à cette émission. François Angelier, vous avez rejoint les commissaires de l'exposition Apocalypse hier et demain jusqu'au 8 juin à la BNF. Première grande exposition consacrée à l'Apocalypse. Mot effrayant, mais en fait porteur d'espoir, puisqu'il signifie en grec révélation ou dévoilement.
Alors voilà, il faut d'abord partir des choses simples, c'est-à-dire le mot lui-même, Apocalypse. L'Apocalypse, comme le traduit fort joliment Frédéric Boyer dans le catalogue de l'exposition, c'est la mise à nu. C'est le dévoilement, c'est la révélation, le vel, voilà, comme ça, c'est ce qui est caché est révélé. Et ce qui compte, c'est cette espèce de comparution de la vérité, enfin, de la vérité vraie de ce que l'on est, face à la puissance qui a capacité de dévoiler, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Donc l'Apocalypse, c'est d'abord ça. C'est quand on lève le capot et on regarde le moteur. C'est-à-dire qu'on voit enfin la vérité, non pas les apparences de la belle enveloppe, mais la vérité rude, crue, dure, nue, qui est à l'intérieur. Et c'est cette mise à jour de l'intériorité qui est l'Apocalypse. Le dévoilement est violent.
Mais on peut la désirer quand même, cette apocalypse.
Ah bah bien sûr, puisque à l'origine, c'est ça l'apocalypse. C'est un désir de vérité. C'est pas, de se faire peur avec...
D'enlever la souillure du monde.
Voilà, enlever le monde. Le monde est une souillure, puisque tout le monde...
Le temps, l'espace.
Voilà, c'est ça qui est important, c'est que le monde que nous vivons est un monde tombé. C'est le monde de la chute, et donc l'apocalypse permet la restauration, c'est un vieux rêve, de ce qui était le monde d'avant la chute, et un monde débarrassé de cette espèce de dégradation. Donc après, quand l'apocalypse aura eu lieu, on sort de l'espace, on sort du temps, on entre dans l'éternité divine. Et là, bon, bah...
Alors, que l'on soit croyant ou non, c'est un texte qui a une certaine qualité littéraire et surtout d'imagination. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il se passe concrètement dans cet apocalypse, puisqu'il y a des sceaux, des cavaliers, des martyrs, des trompettes, des bêtes à plusieurs têtes? Enfin, c'est quand même assez fascinant.
Tout commence avec cette figure de Jean, qui donne son nom. Jean qui a été déporté sur l'île de Patmos, qui est une île au large de l'Anatolie, pour la cause qui est le combat pour le Christ, et qui, est, à un moment, reçoit un message, justement, le message de ce qui va se passer, car les temps sont proches. Et donc, on assiste au travers de toute une série de visions qui lui sont communiquées à ce moment ultime qui sera la fin de l'histoire et la fin des temps. Et donc là sont convoqués toute une série de symboles, que ce soit les quatre cavaliers, les anges qui jouent de la trompette, les coupes que l'on renverse.
Les locustes, le dragon.
Voilà, absolument. L'apparition de la bête, l'apparition du dragon, de la prostituée de Babylone.
Qui est cette prostituée de Babylone ?
Ah ben, la prostituée de Babylone, c'est l'emblème de toutes les perversions et de toute la cupidité humaine. Donc c'est une sorte de figure prostitutionnelle, on peut le dire. C'est à la fois la prostitution, mais en même temps la cupidité, le commerce, la valeur matérielle. Donc elle est vouée à la chute également, comme elle est vouée au lac de soufre, comme Babylone et Ninive le sont, c'est-à-dire toutes ces villes qui, avant l'arrivée de la Jérusalem céleste, incarnent l'abomination terrestre.
Alors aujourd'hui, l'Apocalypse, vous le décrivez, François Angelier, c'est toute forme de catastrophe. Il n'y a plus de référentiel eschatologique, c'est-à-dire relatif à la fin du monde. Parlez-nous de cette laïcisation de l'Apocalypse.
Alors justement, c'est ce qui est l'axe majeur de l'exposition, dont je rappellerai donc le commissaire général et Jeanne Brun. Et j'ai travaillé avec Charlotte de Noël, qui s'occupe également du département des manuscrits médiévaux, Lucie Maillant, et je salue mes camarades, Pauline Créteur, camarade apocalypticienne. L'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'il y a d'abord ce texte qui est constitué, qui l'a écrit, comment s'est-il écrit, un individu singulier, un groupe. On sait qu'il a été écrit à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Domitien, une période quand même de persécution. Donc ce texte, on le reçoit d'abord, il a été ensuite, on en a discuté l'intérêt et la valeur pour la raison de son obscurité. Il a ensuite été déclaré canonique, c'est-à-dire susceptible d'être donc inspiré par l'Esprit et intégré dans la Bible, et il en est le dernier livre. Et à partir de là, il y a toute une première très longue histoire où l'Apocalypse est véritablement lu comme un message strictement religieux et théologique qui prépare dans la crainte et les tremblements la révélation finale et la descente justement de la Jérusalem nouvelle.
En parlant de tremblement, le tremblement de terre de Lisbonne, n'est-ce pas là que l'Apocalypse est différent?
Alors ça, le tremblement de terre de Lisbonne, c'est un moment charnière puisque c'est le moment où justement l'Apocalypse finit par être considéré comme une... On laïcise l'Apocalypse, c'est-à-dire que tout le Moyen-Âge et toute la Renaissance qu'on appelle les temps modernes, l'Apocalypse, c'est un message religieux. Et chacun s'en empare ou tente de s'en emparer pour justement en être l'exégète et l'interprète majeur. Donc la papauté romaine désigne comme apocalyptique toutes ses ennemis, ses antagonistes, que ce soit l'Empire ottoman, que ce soit la réforme luthérienne. Idem à l'envers, c'est-à-dire que pour Luther, la bête, le porc, c'est le pape. Et puis, toute cette espèce de conflagration religieuse, avec le temps, finit par laisser place à une laïcisation du texte, qui n'est plus porteur d'une vérité, d'une révélation religieuse et théologique, mais d'une sorte d'extraordinaire arsenal de symboles, d'images, de signes, qui continueront d'exister, mais au-delà de la culture chrétienne, qui continueront à incarner une forme d'angoisse de la fin et de la finitude, au point même que on le retrouvera en 1954 au Japon, avec Godzilla, par exemple, qui est une des figures majeures dans le cinéma de genre. Le dragon sorti des flots, qui est vraiment une créature spécifiquement apocalyptique, eh bien, c'est celle-là qu'ont choisi les Japonais en 1954 pour incarner, sur le plan symbolique, ce qu'était l'horreur atomique.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Slutar du aldrig att fråga?
Nej. Jag slutar aldrig.
François Angelier, dans l'exposition Apocalypse qui a lieu en ce moment à la BNF, vous vous êtes occupé de la bande dessinée et du cinéma. Et on y voit notamment un bout du 7e sceau de Bergman, que je recommande de revoir voir
ça,
à tous
voyez,
les auditeurs.
Revoyez, faites voir et faites revoir le 7e sceau.
Oui, vraiment, on entend un extrait. Et pour vous, c'est le grand film apocalyptique millénariste, c'est-à-dire ?
Absolument, c'est un film donc 1958. C'est un film qui narre l'espèce de déambulation... pèlerinage d'un chevalier dans une terre scandinave et qui est confronté en temps de peste à une famille de forains, donc déjà de joueurs, de baladins, et en même temps, une espèce d'interrogation permanente, puisqu'il rencontre la mort, il joue aux échecs avec la mort, c'est un passage légendaire donc de l'histoire du cinéma. Il y a deux moments, moi, qui sont très importants. Le premier moment, c'est une lecture de l'Apocalypse qui est faite en famille, donc ça, c'est très très beau, puisque là, on voit que le livre, la Bible est là, et les gens le lisent avec une espèce d'émotion et de questionnement extrêmement puissant.
Et c'était le cas ?
Et c'était, oui, absolument.
Les gens lisaient l'Apocalypse en famille.
Alors, ils lisaient quand ils savaient lire. Mais en tout cas, ils interrogeaient les images porteurs d'apocalyptique. Et l'autre, c'est le moment millénariste, c'est-à-dire que au moment de la peste noire en Occident, qui a décimé, il faut le dire, la moitié de la population européenne, il fallait expier. La peste était évidemment un châtiment divin, il fallait l'expier. Et donc, des confréries de pénitents flagellants allaient de village en village, porteurs de la croix, et se flagellait comme ça, et donc c'est génialement mis en scène par Bergman. Mais là, on est vraiment avec le septième sceau dans, je dirais, le moment de croyance et de foi le plus intense, et entre guillemets le plus fanatique en l'Apocalypse. Après, ce sera tout à fait autre chose.
En parlant de peste, l'un des films qui m'a le plus marqué par son aspect apocalyptique, loin des films spectaculaires, c'était le Nosferatu de Werner Herzog, et pas du tout pour le vampire, mais parce que la peste ravage un village et il n'y a plus aucune infrastructure.
Absolument, mais que ce soit le film de Murnau ou le remake génial qu'en a fait Werner Herzog, on est dans, je dirais, dans une démarche, une construction qui est une dimension apocalyptique. Sauf que, évidemment, c'est pas l'ange du Seigneur qui arrive, c'est Dracula, qui est une figure d'antéchrist. Contrairement à ce qui ça a été parfois dit, Dracula n'est pas le diable. Dracula, c'est un contre-Christ, c'est un antichrist. Et tout le fonctionnement du personnage de Dracula peut se lire comme une défiguration carnavalesque et monstrueuse de la figure du Christ. Et quand il arrive donc en Angleterre, avec son bateau, sa nef, et les rats, et la peste, là on est véritablement dans une sorte de dévoilement, mais de destruction généralisée de l'humanité par le mal, par la figure incarné du mal.
I'm afraid something might be coming. It's not just a dream. It's a feeling.
I told people what you've been doing.
Pour l'exposition à la BNF, François Angelier, vous avez dressé une liste de films apocalyptiques allant quasiment de la naissance du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Là, on entendait Take Shelter de Jeff Nichols. Comment avez-vous procédé à la classification, puisqu'on peut aussi voir les blockbusters de Roland Emmerich, Independence Day ou Le Jour d'après, Abel Ferrara, 4h44, Le Dernier Jour, Mélancolia de Lars von Trier. Je crois que vous avez divisé ça en trois parties.
Oui, absolument. L'apocalypse au cinéma peut se décliner sous trois formes différentes. Ce qu'on appelle le pré-apocalypse, c'est-à-dire cette espèce d'angoisse récurrente, montante, qui assaille des personnages. Alors, soit parce que quand elle reste totalement psychologique et intériorisée, c'est Take Shelter de Jeff Nichols, où un ouvrier américain est obsédé par l'arrivée d'une tornade et se pose des questions, finies par se transformer en prophète, se pose des questions. Un jour, le ciel est criblé d'éclairs, il dit « Mais suis-je le seul à voir cela ?» Question prophétique typique. Et la fin du film pose la question « Est-ce qu'il a raison ou tort ?» puisque la manière est assez subtile de filmer tout ça. Donc ça, c'est le cinéma pré-apocalyptique. Soit on sait que quelque chose va arriver, la science le dit, certains prophètes y croient, on ne sait pas véritablement. Alors soit c'est les films de météores, les films de comètes qui vont percuter la Terre. On ouvre l'exposition avec Mélancolia de Lars von Trier, qui est un film justement qui accomplit la chose, mais qui est le grand film pré-apocalyptique. Il y a le cinéma, je dirais, de pur apocalypse, qui, de par sa laïcisation, est devenu le pur film catastrophe. Alors là, c'est intéressant, puisque ça traverse toute l'histoire du cinéma, depuis 1900, avec les premiers documentaires tournés lors des grandes calamités, que ce soit le tremblement de terre de San Francisco, ce qu'on appelait le Galveston Hurricane, quand un ouragan d'une violence inouïe a pulvérisé la ville de Galveston, qui est un port texan, et tout ça a été filmé, ou en 1926, le tremblement de terre de Tokyo, que les agences de documentaires filmaient. Donc ça, c'est la naissance du cinéma. Et puis même avant, l'éruption de la montagne Pelée, avec cette petite minute de film muet filmé par Méliès, ça c'est la naissance du film catastrophe. Et après, il n'y a qu'à décliner. Le film catastrophe, après, bénéficie de toutes les améliorations techniques du cinéma, que ce soit le film tel qu'il est nommé dans les années 70, jusqu'au film de Roland Emmerich, où aujourd'hui, vous pouvez offrir aux spectateurs les cataclysmes les plus effroyables, avec le plus grand réalisme. Et après, vous avez l'autre cinéma, c'est le cinéma post-apocalyptique, donc c'est une culture énorme, transmédiatique, littéraire, bande dessinée, cinéma. Et là, c'est que va-t-on faire le jour d'après ? Et donc, c'est tous les cinémas de survivants, les cinémas...
La guerre des mondes de Spielberg, adapté de H.G. Wells, c'est dans la deuxième ou la troisième catégorie.
Ça, c'est un film intermédiaire.
Avec les fers à repasser géants et terrifiants qui surgissent de n'importe où.
C'est les films d'invasion extraterrestre, qui sont toujours des films un petit peu à la fois apocalyptiques, post-apocalyptiques, puisqu'il y a la résistance s'organise, et comme dans le film de Wells, généralement, l'homme a réussi à mater l'envahisseur. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est les films où, en définitive, tout est joué, et on se pose la question, que faire ? Et ça, là aussi, ça traverse toute l'histoire du cinéma, depuis tirés du roman du romancier américain Richard Matheson, « Je suis une légende », où t'as un homme seul, est confronté à une humanité transformée en vampire cannibale.
Avec
généralement un animal de compagnie.
ça barde. Moi, je sais que quand il y a un animal de compagnie au début du livre, je sais que ça va mal se passer.
Mais le chien est là pour jouer sa partie, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, le pire étant la route, je parle du roman, le film est quand même moins puissant, mais la route de Cormac McCarthy, où là, le langage est embarqué dans la catastrophe. Donc, il y a vraiment... La catastrophe est telle qu'il n'y a même plus capacité à la narrer sur un mode, je dirais, objectif.
Alors, dans l'exposition, même si vous ne vous en êtes pas occupé directement, je vais quand même le citer, il y a de nombreuses enluminures et œuvres médiévales que vous avez dû contempler, qui sont absolument magnifiques. La première Bible de Charles le Chauve, qui date du 9e siècle. Les Cavaliers de l'Apocalypse de Dürer, dont on voit l'Apocalypse en 15.
Alors ça, c'est la charte graphique de l'imagerie apocalyptique pour les siècles qui viennent. Enfin, Dürer a imposé une image de l'Apocalypse à ce point puissante, intense, fouillée, qu'après, il n'y a plus qu'à décliner. C'est extraordinaire.
Et vraiment extraordinaire. Il y a le sublime manuscrit, le Beatus de Saint-Sever.
Oui, alors ça, c'est le grand manuscrit apocalyptique d'Occident qui a fait l'objet d'une édition récente très, très spectaculaire. Et là aussi, on est vraiment... La conservation, on a la chance d'avoir un manuscrit parfaitement conservé. Donc que ce soit les figures apocalyptiques, la fraîcheur et l'intensité des couleurs font qu'on est vraiment au contact d'une imagerie, quoi. Je veux dire, la puissance de l'image.
Ah non, c'est très très beau. Et pour ceux qui ne peuvent pas voir l'exposition, il y a un très beau catalogue. Dedans, il y a les désastres de la guerre de Goya. Il y a William Blake, il y a Odilon Redon, qui est admiré par des essaims dans Un rebours de Huysmans. Je le signale, car j'adore Huysmans. Vous l'appréciez, vous avez écrit dessus.
Au combien ?
Oui. En sort, Victor Hugo. Et alors, parlons de bande dessinée. Vous exposez une planche de la bande dessinée d'Edgar P. Jacobs, Le rêveur d'Apocalypse.
Oui, alors ça, c'est important. C'est une bande dessinée de Vourme et Rivière qui raconte la vie d'Edgar P. Jacobs. Alors, Jacobs, c'est un des classiques de la bande dessinée franco-belge. Au départ, il voulait être chanteur d'opéra. Et puis bon, les choses ont fait qu'il est devenu le créateur de Blake et Mortimer et d'autres bandes dessinées. Et c'est quelqu'un qui a conçu son œuvre dans les années 50-60, donc en pleine guerre froide. Et la guerre froide a été un extraordinaire moment, d'anxiété, d'angoisse, et en même temps très fructueux sur le plan apocalyptique, si j'ose dire, de l'inspiration apocalyptique. Il y avait une exposition aussi... musée d'art moderne de la ville de Paris qui s'appelle Âge atomique, qui montre tout cela. Et donc Jacobs a répercuté cette angoisse avec en permanence soit des menaces climatiques, soit des menaces militaires, soit une sorte de destruction, une espèce de cataclysme industriel et civilisationnel. Et ça a donné lieu à véritablement toute une œuvre qui est hantée par l'apocalypse. Il faut lire Black et Mortimer comme un des grands classiques de de l'art apocalyptique.
Et je signale aussi une curiosité, le tableau Temple numéro 152, qui a été réalisé en 1939 par Fleury Joseph Crépin, un plombier pratiquant le spiritisme, qui entendait des voix qui lui ont dit qu'il pouvait faire cesser la Seconde Guerre mondiale en peignant 300 tableaux. Standard de ce soir, Idées Noires de Bernard Lavilliers et Catherine Ringer. Il est temps de découvrir votre choix musical, François Angelier.
Petite fille, tends la main à ce monde. En guerre, dans le froid, sous la neige.
François Angelier, vous avez le disque dans les mains, qu'est-ce qu'on entend ?
On entend un extrait du disque de Ingrid Cavan, Aichi Boom Daichi, 16 moments de ma vie, qui est un disque absolument magnifique, effarant, qui est signé donc Ingrid Cavan, Albert Serra et de Molfortz, donc les musiciens, et qui est produit par le grand Bertrand Burgala, c'est chez Tricatel. Et moi j'adore Ingrid Cavan quand j'étais plus jeune, dans les débuts des années 80, elle avait sorti ce magnifique de vinyle à l'époque, le récital aux Pigalles, dans cette robe noire que lui avait taillé Yves Saint-Laurent. Et c'est une personnalité extraordinaire qui a été une des grandes actrices de Fassbinder, dont elle a même été l'épouse. Elle incarne cette espèce de dimension presque prophétique et des grandes égéries allemandes comme Marlène Dietrich. Et sa voix est tout à fait étonnante. Et elle témoigne non seulement d'un art du chant, de la présence scénique, de l'envoûtement, mais en même temps de l'histoire de l'Allemagne. Et ce disque est à écouter comme la mémoire allemande sur c'est sa propre vie en 16 moments. C'est tout à fait fascinant.
On pourra évidemment aussi lire le livre de Jean-Jacques Schul, Ingrid Cavan.
Absolument.
Ces dangers ne sont que trop visibles pour moi. Dans ma propre famille, j'ai eu un exemple terrible en la personne de ma sœur Camille, qui était une femme de génie, d'une beauté et d'un talent extraordinaire, et qui n'a rencontré que le désespoir et finalement la folie. En conséquent, je crois que les vers que Baudelaire par lesquels Baudelaire a ouvert son livre Les fleurs du mal, dans lequel il parle de cette malédiction qu'est la vocation littéraire, ne sont malheureusement que trop vrais. Et il ne faut pas s'étonner si les parents d'autrefois en avaient une salutaire terreur. Peut-être que maintenant cette terreur s'est atténuée, mais il faut dire que le talent littéraire s'est également atténué. Par conséquent, les deux choses sont devenues plus rares et moins dangereuses.
Paul Claudel au micro de Jean Amrouche en 1951. François Geulier, vous êtes un claudélien non dissimulé. Vous
avouez.
Oui, vous avez aussi écrit...
Je fais mon outing il y a bien longtemps.
Vous avez aussi écrit sur Blois, sur Bernanos, sur Huysmans. Tout cela m'a l'air très catholique.
Oui, oui, oui. Moi, je considère qu'un catholique qui ne fait pas scandale, c'est moins que rien. Le catholicisme est le grand scandale de l'histoire. Le Christ est la personnalité la plus scandaleuse. Et les catholiques se prosternent tous les jours devant un condamné à mort de droit commun qui est pendu sur un terrain de... qui est crucifié, donc la condamnation des esclaves entre deux bandits sur un terrain d'ordure. Je considère qu'il y a un scandale natif, fondamental, ontologique et indestructible dans le catholicisme, et que je me suis consacré, ou j'essaye de me consacrer depuis maintenant presque 40 ans, à des figures qui ont maintenu ce scandale et cette intensité comme ça de la dévastatrice du catholicisme. C'est un catholicisme marginal, mystique, apocalyptique, de mauvais goût, mais ça me semble être là la vérité de la chose.
Alors, que pensez-vous, par curiosité, d'un film comme Théorème de Pasolini, par exemple ?
Ah bah, Pasolini fait partie de cette grande kyrielle de penseurs catholiques. L'homme qui fait à la fois, qui après 22 heures allait dans les contre-allées obscures, s'offrir aux voyous et se faire battre, et en même temps réalisait l'Évangile selon saint Matthieu, Théorème, Porcherie. Voilà, c'est là, on est au cœur même de la question que pose le catholicisme et l'incarnation.
Puisque Théorème, à sa sortie, évidemment, fit scandale, mais on peut aussi dire que c'est un film religieux.
Absolument.
Ce que je tiens à dire, en mon nom personnel, et au nom certainement de tous mes amis, c'est que je proteste solennellement contre une certaine presse française qui s'est fait l'écho d'une certaine presse italienne particulièrement immonde. C'est-à-dire que la mort, la façon dont Pasolini est mort, quelles que soient ses circonstances, ne justifie pas les allusions abjectes ou ricanantes. Elle ne justifie pas des propos qui sont particulièrement scandaleux et ignobles. J'en veux simplement pour preuve le titre sous lequel le reportage a paru dans un journal français que je ne nommerai pas, les lecteurs le reconnaîtront, et qui était ainsi intitulé « Voyez ce tas d'ordures, deux points, c'était Pasolini ». Je trouve ça particulièrement immonde. Un quotidien. Simplement, je veux dire que ce crachat sur un cadavre se retourne contre ceux qui le lancent. Et au besoin, entre le cadavre de Pasolini et la face de ces gens-là, j'assure le relais.
C'est tout ce que j'ai à dire.
Un moment de radio très puissant et émouvant, c'est Jean-Louis Borry sur la mort de Pasolini en 1975 dans Le Masque et la Plume sur France Inter. Un moment qui vous a marqué, François Angelier, sachant que Jean-Louis Borry vous fascinait.
Oui, Borry appartient à ces rares personnes dont tout est à réentendre, à écouter. Il était là pour témoigner à la fois de sa science, de sa culture, de l'actualité, et en même temps d'une vérité intime qui était toujours portée à l'incandescence. Il n'y a jamais chez Jean-Louis Borry de propos moyens, de propos tiédasses, de propos pour meubler. Là, on l'entend militer. Il a dit des choses extraordinaires sur Portier de nuit aussi. Il a dit sur Portier de nuit, j'en ai même parlé un jour avec Liliana Cavani, ce qu'il fallait dire.
C'est la réalisatrice. Alors attendez, il faut peut-être rappeler pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce film.
Voilà, réalisatrice italienne.
Un film très dérangeant
d'une femme que sa vie...
Charlotte Rampling.
L'expérience de la déportation est en même temps une expérience de la transgression et de l'érotisme le plus noir.
Qui a une histoire d'amour avec un nazi.
Voilà, avec un SS. Et donc, film tout à fait transgressif et extrêmement violent. Et justement, le texte de Boris, c'était le portier de la nuit. C'est qu'il disait que cet homme avait ouvert en cette femme une sorte d'ouverture sombre vers une nuit intérieure dont elle n'est jamais sortie. C'est ça la critique. C'est les gens qui vont directement à l'essentiel.
Et qui prennent des risques.
Et qui prennent des risques, qui portent le fer là où il faut. Je veux dire, si on ne fait pas ça, autant faire autre chose.
Hein. Alors faisons tous autre chose en ce moment, non?
Disons qu'il faut être très vigilant, il faut sentir quand on commence à baisser la garde et on commence à pactiser.
Bah parfois c'est dès le début.
Oui.
Qu'on baisse la garde en débutant. Et là, on achève quelque chose, on achève une émission et je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. François Angelier, vous avez apporté un livre d'un volume considérable et donc menaçant avec lequel on peut d'ailleurs assommer quelqu'un.
Oui, on peut assommer quelqu'un. C'est pas si lourd, c'est volumineux mais c'est pas lourd. C'est le catalogue de la collection Jean Chatelus qui est visible jusqu'au mois de juin au Centre Pompidou. Le titre, c'est Énormément Bizarre. Donc c'est une exposition, c'est la donation de la Fondation Antoine de Albert. Jean Chatelus, c'est un homme, on parlait de Des Esseintes, c'est une sorte de personnage à la Des Esseintes qui avait une activité professionnelle.
Bandit esthète.
Voilà, et qui a utilisé tous ses moyens, son temps, pour habiter véritablement sa tête. C'est-à-dire que chez lui, il se définissait comme un amasseur, donc il n'a pas arrêté d'acheter les œuvres d'art parmi les plus singulières, les plus volumineuses, les plus bizarres, et il en a fait son logis. C'est-à-dire, c'est un homme qui logeait dans son rêve, et je trouve ça extraordinaire, et on peut voir dans cette exposition des choses hallucinantes, un confessionnal transformé en boudoir, des photos phénoménales, son lit qui est un lit encadré par 4 écrans de télé, c'est tout à fait extraordinaire.
Le confessionnal boudoir, j'ai tout de suite pensé à Clovis Trouille,
ouais,
ce sera le sujet d'une autre émission.
C'est un peu ça. Ouais.
Merci beaucoup François Angelier.
Merci infiniment.
Votre exposition Apocalypse hier et demain est visible à la Bibliothèque Nationale de France jusqu'au 8 juin prochain. Pour ceux qui ne passeront pas à Paris, un très beau catalogue a été publié aux éditions de la BNF. On peut également évidemment vous lire dans Le Monde, puisque vous y faites des chroniques de livres de poche et vous écoutez sur une chaîne adverse, mais qui appartient tout de même au même groupe. À signaler aussi, le samedi 26 avril en France, en Belgique et en Suisse aura lieu la 27e édition de la fête de la librairie indépendante, durant laquelle près de 700 librairies offriront à leurs clients une rose et 5 livres cette fois-ci rassemblés en un seul sous le titre « Esprit, es-tu là ?» tiré à 26 000 exemplaires. En partenariat avec les éditions Gallimard et grâce à la collaboration de 5 artistes et intellectuels, Gabriel Dufay, Antoine Ginesi, Claire Morel, Daniel Sansu et Varam Mouratian, l'opération est organisée sous le haut patron de l'enthousiaste Marie-Rose Guarnieri de l'association Verbe et de la librairie parisienne des Abbesses. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Etel Alzial et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Loïc Frapsos.